Bonjour, merci à tous d'être là. Nous sommes ravis de recevoir François Darnaudet, que nous suivons depuis plusieurs années. Et je voulais commencer par lui poser une question sur ses débuts. Comment es-tu venu à l'écriture de polar ? Parce que pour moi, je t'ai découvert avec un poulpe en 2001. Le poulpe, le numéro 231 de la série, Boris au Pays Vermeil. Alors du coup, je me demandais, est-ce que c'est l'aventure libertaire du poulpe, avec ce personnage que tout le monde pouvait s'approprier, qui t'a donné envie d'écrire ou non ?
Non, pas du tout. Non, j'ai commencé à publier en 85. Et en fait, à l'époque, alors il y avait un vendeur de polar chez Mola qui s'appelait Martin, je crois. Et donc, à l'époque, je vivais encore à Bordeaux. Et donc, c'était un polar fantastique inspiré des bandes dessinées de Tardy. Et j'écrivais à l'époque avec quelqu'un qui a mal tourné, qui est devenu prof de français, et qui s'appelait Thierry Dorel. Et qui est sur le bassin d'Arcachon toujours, mais qui a, je pense, arrêté d'écrire. Et donc, on avait écrit ce livre inspiré du Muséum d'Histoire Naturelle et d'une BD de Tardy qui s'appelle Adèle Blanc-Sec toujours. Et donc, c'était un roman assez court qui était à la fois policier et fantastique. Et ça venait du fait que lui était un gros lecteur de romans policiers, tandis que moi, j'étais un gros lecteur de littérature fantastique et de bande dessinée. Mais moi, je viens d'abord du fantastique. Et puis après 1985, donc, j'ai publié avec Thierry des nouvelles dans des anthologies Hitchcock des Masques, qui étaient dirigées par Andreb, qui était un auteur et traducteur du Masque. Et puis après, comme j'ai commencé à écrire en collaboration, c'était pas évident. Lui arrêtant d'écrire, il a fallu que moi je trouve ma propre voix tout seul. Et pendant quelques années, en fait, c'est toujours très difficile de publier son premier roman, mais le deuxième aussi est très très dur à publier. Et j'ai eu pas mal de problèmes pour publier le deuxième. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, le Fleuve Noir avait lancé une collection d'horreurs qui publiait à la fois des Américains, mais surtout des Français. Et le Fleuve Noir, se rendant compte que les Français vendaient plutôt mieux que les Américains, donc c'est une collection qui était très décriée à l'époque, qui s'appelait la collection Gore, donc qui s'inspirait du Gore à l'époque, qui était très à la mode et qui est toujours à la mode un peu au cinéma. Et donc j'ai sorti deux romans Gore, mais c'était des romans Gore particuliers parce que j'avais décidé, comme je passais beaucoup de temps, je vivais à Collioure avec ma femme et je venais en vacances en Ernos avec ma femme aussi. Donc en fait, il y en a un qui s'appelle Collioure Trap, que j'ai écrit avec elle, et un qui s'appelle Anders Trapp, que j'avais écrit tout seul. Voilà. Et donc, j'étais classé écrivain d'horreur et de fantastique. Et puis, ce qui s'est passé, comme un des auteurs, d'ailleurs, dont je vais parler là, petit à petit, les collections de fantastique, de littérature fantastique, ont disparu, ou du moins ont disparu pour nous, les auteurs français. C'est-à-dire qu'il y avait deux, trois auteurs qui étaient publiés en France, et puis tous les autres, il fallait être dans les trois premiers ou ne pas être. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On a quand même un certain savoir-faire par rapport à cette littérature fantastique et d'horreur. Et donc, il y a un genre qui semble assez proche du nôtre, puisqu'en fait, on le pratiquait de manière indirecte. Parce que souvent, un roman fantastique, c'est très proche d'un roman policier, sauf qu'il y a une créature surnaturelle au lieu d'avoir une créature humaine, disons, comme coupable. Donc on est passé massivement en polar. Et en polar, j'avais accumulé les manuscrits de polar refusés par le Fleuve Noir, mais ces manuscrits refusés étaient proposés à chaque fois par un gars qui était très célèbre à l'époque, qui s'appelle Patrick Mosconi. Et Patrick Mosconi, c'est quelqu'un qui a, entre autres, sorti Jean-Bernard Pouy, qui a sorti Tonino Benacquista, etc. Et donc, mettant avec Tonino Benacquista, j'avais retravaillé un manuscrit de polar et j'aurais dû rentrer au Fleuve Noir donc à cette époque-là. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, mais ce qui était très amusant, c'est que j'étais tout le temps refusé par le Fleuve Noir, mais toujours proposé par Mosconi. Ce qui fait que les secrétaires du Fleuve Noir étaient persuadés que j'étais un auteur du Fleuve Noir. Et donc, quand la collection Gore quand j'ai proposé mon texte à la collection Gore, il y a une secrétaire qui a dit à la directrice de collection, c'est un auteur du fleuve. Et donc, étant les auteurs du fleuve, évidemment, on les prenait, il ne fallait pas qu'ils ratent leur coup, mais ils étaient pris presque systématiquement. Et donc, je me souviens au téléphone, elle m'a dit, toi, vous êtes un auteur du fleuve, je pense que je vais vous prendre. Bon, mais j'ai rien dit. Évidemment, j'ai rien dit. Je suis un auteur beaucoup refusé par le fleuve, mais c'est tout. Mais, et donc, comme ça, j'ai sorti De Fleuve Noir. Et alors, après la collection Gore s'est arrêtée. Et donc, Jean-Bernard Puy me disait, il faut essayer un série noire. Tu dois tenter la série noire. Et donc, c'était l'époque où son grand copain, qui était Patrick Reynal, était directeur de la série noire. Et donc, j'avais écrit un polar qui se passait à Collioure, qui a fini par s'appeler Boris au Pays Vermeil, qui ne s'appelait pas comme ça au départ. Et ce polar, je l'ai envoyé à Jean-Bernard Puy, qui me l'a fait retravailler. Et à un moment, il m'a envoyé, il m'a dit, Darnaud, c'est bon pour la série noire. Et puis, 3 jours après, j'ai eu la lettre de refus de la série noire. Donc, j'ai dit, bah, écoute, il y a un truc qui n'a pas marché. Il me dit, bah, je ne comprends pas. Et puis un an après, il m'a rappelé et il m'a dit, il m'appelle Darnaud, il me dit, Darnaud, est-ce que tu veux pas poulpifier ton bouquin ? Alors je lui dis, ben, tu m'expliques ce que veut dire poulpifier un bouquin ? Et a priori, oui, moi je suis prêt à tout. Alors il me dit, ben, tu mets le poulpe dans ton bouquin. Bon, ben, je mets le poulpe dans mon bouquin, mais il dit, je sais pas qui est le poulpe. Et il me dit, bon, mais je t'envoie la Bible du poulpe. Et bon, alors heureusement qu'il y a les traitements de texte. Ce qui fait qu'il y a un gars qui était un journaliste local de là-bas, qui est devenu le poulpe. Donc, il a fallu que je fasse un peu... Alors, ce qui fait que j'ai fait un poulpe où il y avait très peu le poulpe. Voilà. Donc, Boris au Pays Vermeil était... célèbre, pas célèbre, mais je veux dire, il était connu comme étant un poulpe avec très peu de poulpe. Parce que le héros, c'était un autre gars qui était le père de Boris, justement. Voilà. Et alors, après, comme ce poulpe étant sorti, bon, moi, j'ai continué, j'ai sorti d'autres livres. Alors... il y a la particularité du fantastique, c'est que le fantastique, il meurt, il renaît, il meurt, il renaît. Donc il y a toujours un éditeur qui a de l'argent à perdre, qui pendant 2-3 ans sort une collection fantastique qui ne se vend pas. Mais le but du jeu, c'est d'être dans les premiers titres parus et non vendus et non achetés, enfin, etc. Et donc on sort de temps en temps des livres de fantastique. Et puis j'ai continué à écrire des polars. Et j'avais quand même un regret par rapport au poulpe. Je m'étais dit quand même, c'est un peu une arnaque intellectuelle. C'est un poulpe qui n'est pas un poulpe. Et donc, j'ai voulu faire un vrai poulpe et un poulpe qui se passe dans le Bordelais. Alors que le sujet est typiquement toulousain et du côté de Cahors. Puisqu'en fait, c'est sur Malvy. Malvy qui était le président donc, de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Et ce n'est pas sur Malvy lui-même, mais c'est sur son grand-père. Qui était ministre de l'Intérieur et qui a été banni de France en 1917 pour trahison. Alors en fait, c'est pas il a trahi rien du tout, mais il lui a été reproché par XIV-XVIII, donc c'est Clémenceau, oui. Donc Clémenceau a voulu sa peau parce qu'il n'a pas assez pour chasser les journalistes d'extrême gauche. Et donc, il a considéré que c'était un traître, qu'il laissait parler les anarchistes, etc. Et donc, il a été obligé de démissionner, expulsé de France. Et puis après, il est revenu, il a été réélu à Cahors brillamment et disculpé. Et puis donc, c'était son petit-fils qui était le président de Malvy, Martin Malvy, qui était le président du Midi-Pyrénées. Alors, il se trouve que je suis un Malvy du côté de ma mère, mais pas de la branche, pas de sa branche à lui. C'est-à-dire qu'on est sûrement des cousins éloignés, mais j'ai jamais pu. Au XVIIIe siècle, on n'est toujours pas parents. En remontant, nos ancêtres sont différents. Hein. Donc, j'avais pas réussi à trouver ça. Et donc, ça m'avait beaucoup intéressé, cette affaire Malvy, parce que l'extrême droite avait accusé Malvy d'être un juif caché. Donc, j'avais fait des recherches parce que je me disais, bah, je suis un Malvy, donc si je suis un Malvy, je suis un juif caché, mais c'est tellement bien caché que je ne le sais pas. Donc, j'ai quand même voulu savoir. Voilà. Donc, comme je voulais faire un poulpe, en général, j'écris un bouquin, enfin, c'est comme des silex, il me faut 2 morceaux de cailloux. Donc, il me faut 2 trucs qui entrent en contact. Donc, il y avait l'affaire Malvy de 17 et il y avait l'envie de faire un poulpe et ça a donné le deuxième poulpe qui, lui, est un vrai poulpe. Et donc, il s'appelle Les Ignobles du Bordelais.
Et qui est épuisé d'ailleurs. Tous les premiers, on ne peut plus les trouver de toute façon.
Oui, non, c'est épuisé. Ouais. Les 2 poulpes sont épuisés. Ouais. Et la politique du poulpe, c'est de ne pas rééditer, sauf pas de Nex, puisqu'ils sont fâchés. Donc de Nex ne veut plus qu'il y ait de poulpe chez Baleine. Mais en gros, ils ne rééditent pas les poulpes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils tirent à 2500 exemplaires. Une fois que les 2500 ont disparu, c'est terminé. Après, j'ai toujours eu cette double casaque, polar et fantastique.
Et finalement, quand on lit ta bibliographie à la fin là, de l'ouvrage, tu as réussi à publier chaque année finalement quelque chose. Finalement.
Alors, j'ai presque publié chaque année, oui, puisqu'en fait, j'ai commencé à 85 et je crois que je suis à 26 bouquins, plus une ou deux BD, voilà. Et donc plus des bouquins sur la peinture, mais ça, je ne l'aimais pas.
Donc, tu as toujours écrit?
Ah oui, j'ai écrit, moi, depuis l'âge de 17 ans.
D'accord.
C'est grâce aux maths que j'ai écrit. Parce que j'avais du mal à supporter mes études de matheux. C'est-à-dire que j'ai toujours bien aimé les maths comme ça. J'ai toujours trouvé que c'était une matière qui était assez facile. Mais j'avais du mal à la travailler. Donc, de travailler des maths, de faire des maths chez moi, ça me cassait le moral. Et donc, comme ça me cassait le moral, il fallait que, pour contrebalancer, que je trouve autre chose. Et comme je lisais beaucoup, beaucoup de SF américaine, au départ, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire de la SF. Voilà. Et puis, je n'ai jamais réussi à écrire de la SF. C'est un truc que j'ai jamais bien compris les ressorts du roman de science-fiction. Donc, tout ce que j'ai fait était médiocre. Et finalement, petit à petit, j'avais glissé vers le fantastique. Mais au départ, c'était vraiment le contrepoison, c'est-à-dire que je faisais des études scientifiques pour faire plaisir à mon père et parce que c'était pour moi le plus facile, mais j'écrivais pour survivre, quoi.
C'est la part d'imaginaire dont tu avais besoin, une bulle d'oxygène ?
Ah oui, la part, tout à fait, oui. Oui, c'est la part d'imaginaire de... Tout à l'heure, moi, les chocs littéraires, c'est donc la science-fiction américaine et Borisian. Et Borisian, dans ses bouquins, il y a l'herbe rouge. Et l'herbe rouge, c'est vraiment un plaidoyer contre les études scientifiques. Mais en même temps, c'est un centralien. Et puis, c'est un gars qui a abordé la littérature de manière très scientifique. Donc, moi, ça m'a toujours fasciné et j'ai toujours compris cette ambiguïté de Vian. C'est-à-dire qu'on est scientifique, c'est comme ça. On a une manière de penser qui est scientifique. En même temps, ce qu'on aime, c'est la littérature. Et moi, j'ai fait en sorte de bien cloisonner, tandis que lui, disons que, bon, déjà, outre le fait qu'il ait beaucoup plus de talent, je veux dire, lui a fait en sorte de les mélanger. C'est-à-dire qu'il a participé, il a fait en sorte, avec la pataphysique, etc., de trouver des procédés littéraires scientifiques, ce que moi, je veux pas faire.
Alors, du coup, c'est la première fois que les mathématiques et la littérature s'unissent dans ce livre-ci.
Alors, pour moi, oui, pour moi, c'est la première fois. Oui, tout à fait.
Tes deux facettes sont
réunies. Oui. Alors, c'est venu du fait qu'en plus, quand au bout d'un moment, comme je suis devenu prof de maths, régulièrement, il y a des gens qui me demandaient pourquoi tu n'écris pas un bouquin sur le collège, sur ceci, sur cela. Je dis, oh non, là, surtout pas. Et puis à un moment, il y a eu cette histoire des nombres premiers. Et puis bon, j'ai toujours beaucoup aimé l'arithmétique, puisque les nombres premiers font partie d'un chapitre des maths qui s'appelle l'arithmétique. Et l'histoire des codages et tout ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur ça. Et partant sur ça, mais au départ, ça ne suffisait pas, en fait. J'ai fait un premier bouquin qui faisait la moitié de celui-là. Et puis, ce n'était pas convaincant. Donc, c'est un manuscrit que j'ai gardé pendant 3-4 ans dans mes tiroirs. Et puis, tout d'un coup, il s'est passé un truc l'an dernier qui fait que tout d'un coup, il y a eu la deuxième moitié qui est apparue. La deuxième moitié, mais qui n'est pas la deuxième moitié du livre. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui, tout d'un coup, s'est mêlé au manuscrit initial.
Alors, du coup, pour nous intriguer, ta mise en bouche est intéressante parce que par petites notes, petit à petit, tu vas glisser vers ton histoire. Alors, ça démarre par un avertissement sur les nombres premiers. Là, tu parles du savoir mathématique. Une petite discussion dans la nuit autour des nombres premiers. Est-ce que, du coup, petit à petit, tu vas dérouler l'intrigue? Et à petit chapitre découpé, tu vas composer une histoire en flashback. Est-ce que tu veux nous raconter le prétexte?
Oui, alors si vous voulez le thème pour moi, hein, moi il faut à chaque fois quand j'écris un bouquin pouvoir le résumer à une phrase, évidemment parfois en deux, en trois, etc. Alors en une seule phrase, ce serait c'est l'histoire d'un vieux con de prof de maths qui tombe amoureux, qui est en collège et qui tombe amoureux d'une jeune agrégée. Et comme il est aigre parce qu'il n'est pas agrégé, il n'est que certifié, et parce que la fille est jolie, il est titillé. Et il a un bon copain qui lui organise des balades alors en hiver sur le bassin d'Arcachon et en été dans les Pyrénées-Orientales, qui lui dit écoute, moi quand j'ai fait les donc c'est un troisième personnage que j'aime bien, c'est une sorte de Baba Cool mais de je dis un mélange de Cohn Bendit et de Bijard, c'est-à-dire c'est un Baba Cool mais qui a fait les paras. Et donc il lui dit moi pour avoir la paix à l'armée. je leur faisais le coup de la licorne. Et la licorne, c'est de prendre son couteau comme ça, clac, et de le lancer dans un mannequin, pile dans le front. Et il dit, j'étais célèbre pour ça, et grâce à ça, tous les types de ma chambrée me fichaient la paix. Et lui, tu devrais faire le coup de la licorne, mais en maths. Alors bon, alors ils boivent beaucoup, et les deux copains boivent beaucoup. Et donc, buvant beaucoup, ils délirent
bon
un peu.
Du bon whisky, hein.
Oui, voilà, beaucoup au whisky.
Pas de charron, que du...
Voilà, au CES. Et il lui dit, ben fais ça pour ton agrégé. C'est-à-dire qu'il faut séduire, pour séduire une jeune agrégée, il faut que tu l'éblouisses sur le plan mathématique. Et alors, voilà, ça c'est la première phrase. Deuxième phrase, c'est qu'il y a en ce moment une fondation anglaise qui a sélectionné 7 problèmes du millénaire en mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a 7 obstacles mathématiques énormes. Que les mathématiciens n'arrivent pas à résoudre. Et donc cette fondation, qui est la fondation du Clay Institute, propose $1 million à chaque mathématicien qui arrivera à résoudre un des 7 problèmes. Alors il se trouve que dans les 7 problèmes, il y en a un qui a été résolu par un mathématicien russe, alors un gars assez original, qu'on dit à moitié fou. Alors en fait, c'est un gars qui ne supporte pas les autres humains, donc qui vit avec sa mère dans une forêt, etc. Enfin, je ne sais pas s'il n'est pas du côté de la Sibérie, etc. Donc, quand ils lui ont téléphoné pour lui dire qu'il avait la médaille de Fields, mettons, il a répondu « Foutez-moi la paix, je suis en train de chercher des champignons avec ma mère, donc ce n'est pas du tout important ce que vous me racontez sur la médaille de Fields. » $1 million, il l'a refusé, il a dit qu'il ne faisait pas des maths pour gagner des dollars. Donc, il a refusé tout ça, mais il n'y a plus que 6 problèmes du millénaire actuellement. Et dans les 6 problèmes, alors il y en a 5 qui sont vraiment inabordables. Enfin, il faut vraiment être mathématicien hors pair et puis avoir accès à des ordinateurs, etc., du gros matériel, et être vraiment dans le coup. Et il y en a un 7e ou 6e qui reste, qui est sur les nombres premiers. Et les nombres premiers, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à démontrer qui paraît simple, mais que l'on n'arrive pas à démontrer. Et donc, il propose à l'agrégé, en plus, ça fait partie des programmes d'agrég et de CAPES, de s'attaquer à ce problème-là. Manque de bol, il correspond par Internet. Et correspondant par Internet, il la drague quand même. Donc, pour la draguer, pour que ça soit un peu flamboyant, il fait des plaisanteries. Et les plaisanteries dérapent. Et il sous-entend qu'en fait, il a trouvé le secret, qu'il est en train de le trouver. Et donc, ils vont casser la banque parce que les nombres premiers sont la base des systèmes bancaires, de nos cartes bleues. Bon, du codage de nos cartes bleues. Nos cartes bleues existent parce qu'il y a les nombres premiers et parce que les mathématiciens ne savent pas résoudre quelque chose. Mais, étant tout d'un coup sur Internet, ils sont espionnés. Donc, ils sont espionnés par des types bizarres, dont je ne dirai rien. Enfin, ça, c'est dans le bouquin.
Celui qui casserait les codes bancaires serait...
Celui qui casserait les codes bancaires, il pourrait à la fois gagner le $1 million... Mais si c'est un truand, il pourrait aller voir la mafia corse, mettons. La mafia corse lui filera plus qu'un $1 million. Parce que là, à ce moment-là, toutes les cartes bancaires seront cassées. Donc, pendant pas mal de temps, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et donc, en fait, alors là, ce n'est pas des Corses, ce sont des Russes. Mais voilà. Et donc, il se retrouve avec... Alors, il finit par... l'agrégé, il finit par la séduire. Mais tout d'un coup, ils ont 5 ou 6 tueurs à gage aux trousses.
Voilà. C'est vrai que je me demandais si ça existait, cet institut clé. Donc du coup, je suis allée bidouiller sur Internet. Les 7 problèmes du millénaire, on peut les trouver en ligne. Alors du coup, c'est à la fois un roman noir, c'est à la fois un road movie puisqu'il y a des courses-poursuites.
Oui, non, c'est un thriller quand même.
C'est à la fois un thriller
ça
aussi.
Ça fait
parce qu'il y a plein de choses dedans, on ne peut pas le réduire à l'énigme mathématique.
Disons que pour moi, le roman noir doit quand même devrait traiter de quelque chose relevant de la sociologie, de la politique. Alors s'il y a quelque chose qui relève de la sociologie, de la politique... C'est l'attaque contre le système français actuel d'éducation nationale. Alors lui, d'ailleurs, le héros ne parle pas d'éducation nationale, il parle d'inéducation nationale. Donc il dit qu'il est membre de l'inéducation nationale. Et donc il y a une charge assez violente contre tout le système gauche-droite confondu mis en place depuis des années et des années, donc sur l'enseignement en collège et sur l'enseignement des mathématiques en général. Donc ça pourrait relever du roman noir. Mais après, il y a la course-poursuite, il y a le couple qui est poursuivi par des tueurs. Je sais pas, c'est la mort aux trousses, quoi. Enfin, c'est,
oui.
Donc ça fait du thriller. Mais alors, un thriller dans le... Comme en fait, moi, je me balade dans le Grand Sud-Ouest. Grand Sud-Ouest, j'appelle Grand Sud-Ouest les deux régions là, qui sont pas accolées d'ailleurs, mais qui auraient pu l'être, l'Aquitaine et puis le Midi-Pyrénées, Languedoc, etc.
Est-ce voilà. que tu as besoin justement d'une réalité géographique, puisque tu parles des lieux ? C'est vrai que c'est un bonheur de te lire. On a envie d'aller à Audenge, on a envie d'aller en Dernos, on a envie d'aller sur le Bachin. Le week-end dernier, je suis allée à Pouillac.
Ah ouais.
Pour voir la jetée.
Et manger. Des...
Et suivre ton livre, oui, oui.
D'accord, oui, d'accord. Oui.
Est-ce que tu as besoin de cette réalité ?
Oui, alors, oui, c'est-à-dire que il y a des villes qui m'obsèdent. Alors, il y a des villes ou des régions qui m'obsèdent. Et tous mes bouquins sont situés dans ces régions-là. Et alors c'est Venise, donc j'ai dû faire 3 ou 4 bouquins sur Venise, Bruxelles, là il doit y avoir 1 ou 2 bouquins sur Bruxelles, Paris, j'ai écrit beaucoup sur Paris, surtout les bouquins fantastiques sur Paris, et donc il y a eu les Pyrénées-Orientales et il y a la Gironde, voilà, donc il va y avoir Lisbonne bientôt, l'Irlande aussi j'aime bien, et oui il faut vraiment que j'ancre mon action quelque part. C'est-à-dire que je ne veux pas faire du polar régional pour le plaisir de faire du régional, mais il faut vraiment que l'action se situe dans des endroits que je connais parfaitement. J'ai entendu des auteurs une fois qui étaient très fiers parce qu'ils avaient situé un bouquin aux États-Unis et ils n'avaient jamais foutu les pieds aux États-Unis. Bon, eux, ils en étaient très fiers. Pour moi, c'est une connerie. Enfin, je veux dire, je ne vois pas l'intérêt de... Comment dire ? L'imagination, c'est une chose, mais imaginer des lieux de la Terre, ça, à l'époque d'Internet, etc., c'est plus possible, si vous voulez. Ça relèverait de l'information fausse.
Tu as besoin de l'éprouver ?
Ah oui, oui. C'est-à-dire que, bon, comme dit un copain, si le gars, mettons, on connaît certaines choses, l'auteur en connaît d'autres, mais si on le prend en flagrant délit de dire une bêtise sur un sujet que l'on connaît, ça veut dire que tout le reste est sujet à caution. Je veux dire, c'était les fameux, le gars qui avait 7 coups dans un Colt, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a que 6 balles dans un Colt, il n'y en a pas 7. Donc quand il y avait un gars qui mettait 7 coups, ben, ça veut dire qu'il ne sait rien sur les armes à feu. Mais si c'est rien sur les armes à feu, c'est peut-être qu'il est nul. Enfin, je veux dire, ça veut dire que si je dis une bêtise sur les armes, je dis peut-être une bêtise sur les maths. Si je dis une bêtise sur les maths, je dis peut-être une bêtise sur Pauillac. Enfin, tout est faux. Peut-être que le Clé Institut n'existe pas. Voilà. Oui. Donc, pour moi, c'est quand même... Surtout qu'avec le roman policier, on est vraiment dans le réalisme. Et même dans le fantastique, d'ailleurs. Si vous voulez que le fantastique marche, vous avez mis un petit carton sur un bouquin qui est vachement bien, de Morgane Cossarieux, que je ne connais pas, mais qui a fait un polar sur des vampires à Bordeaux. Mais c'est hyper réaliste comme bouquin. C'est hyper réaliste, sauf que Bordeaux est truffé de vampires hein, qui tuent. Mais je veux dire, ça ne tient pas la route si elle n'avait pas fait un Bordeaux réaliste. Mais comme son Bordeaux, vous pouvez le suivre presque comme un guide du routard, ben vous vous dites, ben oui, voilà. Bon, il y a le même principe avec la guerre, il y a le même principe avec Reichenmann. Voilà, tous les lieux existent. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'ils existent. Parce que si on y va et qu'on se rend compte qu'il n'y a rien, je veux dire... Si je lis un bouquin de la guerre, un bouquin de Guy Reichenmann, et que bon, il me met une adresse de resto et j'y vais, il n'y a rien, et je me retrouve avec un magasin de tissus, je vais me dire, ben, il se fout de moi. Donc s'il se fout de moi sur le resto, pourquoi il ne se moquerait pas de moi sur l'intrigue ?
Et du coup, je trouve qu'il y a des pages très très belles avec ton personnage quand il est derrière sa moto ou quand il est au volant de sa voiture.
Oui.
Mais les sensations du déplacement, du voyage, oui. Tous les itinéraires.
Oui,
l'itinéraire. C'est de toute beauté, ça.
Oui. Alors ça, c'est l'influence de Pouy. Puy, y a les bouquins de Puy qui sont considérés comme les bouquins mineurs, mais qui sont vachement bien, sont toujours des livres de déplacement. Lui, il adore la Bretagne. Et en Bretagne, je ne connais pas trop la Bretagne, mais il se déplace. Et y a l'écriture du déplacement. Et ça, moi, j'adore. Enfin, j'adore en tant que lecteur. Donc, c'est vrai que de temps en temps, j'ai tendance à faire ça.
Oui, ça se sent.
Voilà.
Oui.
Bon, après, je fais de la moto, donc...
je me demandais.
Non, je fais de la moto, donc il y a des... Oui. Je veux dire, j'ai tendance à mettre des gens, des personnages que je connais, des lieux que je connais, mais je vais mettre... Mais les motos, elles ont existé. Les motos et les voitures qui sont dans mon bouquin ont existé.
Et un lieu imaginaire, ça serait possible pour toi d'inventer une ville imaginaire ? Parce que là, du coup, tout est possible.
Oui. J'ai un roman fantastique qui est en plan parce qu'il n'y a pas d'éditeur. Donc, j'ai fait 200 pages. Il m'en reste 20 à terminer, mais il n'y a pas d'éditeur. Donc, les 20, je ne les ai toujours pas terminés. Et c'est sur un Venise un vrai Venise et un faux Venise, un vrai Paris et un faux Paris, et une ville qui est la fusion des deux. Donc c'est totalement... là, il y a des trucs imaginaires, oui.
Ouais. Alors, tu parlais d'un côté social et politique, et tu parles aussi, donc, du coup, de la mondialisation, de l'informatique, de notre société de surveillance.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Ça fait peur, hein?
Alors, ça fait peur... comment dire? C'est-à-dire que là, j'aurais tendance à être le vieux con de prof de maths. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est une société qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je sens venir le moment où l'inéducation nationale va nous obliger à avoir des smartphones pour communiquer les notes des examens. Ça, c'est d'ici un an ou deux, il va falloir ça. Ça m'énerve. J'ai un vieux portable qui arrive à peine à taper des textos. Et donc, je suis très énervé par cette... comment dire ? Moi, ça ne me gêne pas que la mondialisation, la communication à outrance, tous ces trucs-là ne me gênent pas. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on m'oblige à utiliser ces trucs-là. C'est-à-dire que les gens aient des smartphones, c'est très, très bien. Mais qu'on m'oblige, moi, à en avoir un, ça m'ennuie. Comment dire ? Que l'on m'oblige à remplir des impôts sur Internet, ça me casse les pieds. D'accord ? Moi, je suis pour le papier. Alors qu'on me sorte des trucs sur les arbres, les machins comme ça, ça m'énerve. Mais alors, je veux dire, à la fois le discours des fous de la communication et le discours écolo, ce sont deux discours qui me cassent les pieds parce que je les sens agressifs. Voilà. Et donc, j'ai essayé à un moment de lire des bouquins numériques, j'ai pas pu. J'ai pas pu les lire, ça m'énerve, le numérique, je peux pas. Voilà. Donc ça, c'est mon côté vieux con. Et donc, il me faut du papier. Voilà. Et donc, j'aimerais être dans un monde sans smartphone si moi, j'ai décidé que mon monde à moi n'a pas de smartphone et j'aimerais remplir mes impôts sur du papier si j'ai envie de remplir mes impôts sur du papier. Voilà. Alors évidemment, ça fait vieux con. C'est vrai. Et j'ai écrit un peu ce bouquin, d'ailleurs, sur ce principe-là. C'est-à-dire que, comme disait un copain qu'il avait lu, un banquier, il m'a dit... C'est un vieux con quand même, ton héros. Je dis oui, c'est un vieux con. Il dit, mais il est attachant.
Il tient un journal aussi. Dis-nous un petit mot de ce journal, parce que là, je hurlais de rire. Quoi.
Ah oui, alors il tient un journal. Donc comme il est quand même assez aigre, il tient un journal. Alors ça, je ne le fais pas. Hein. Ça, je n'écris pas. Et un journal, il s'appelle « Le faut être con ». Et tous les soirs, il écrit un truc qui est « Faut être con pour... » Alors mettons, il a un moment, il va se balader, je ne sais plus si c'est au Cap ou... Non, à Tossat. Et il y a un Hummer. Donc, les Hummers, c'est véhicules gigantesques qui sont en fait des véhicules de l'armée américaine. Mais sur le bassin d'Arcachon, il y en a qui achètent ça, comme on a des Fiat 500, où ils ont des Hummers. Bon, ils ont peur des talibans, en fait, je ne sais pas. Mais bon, bref, ils se baladent en Hummer sur le bassin d'Arcachon. Et à un moment, il y a un Hummer qui a failli l'écraser. Donc, le soir, il rentre et il dit, il faut être con pour acheter un Hummer. Alors, ça ne va pas très loin. Je dis, il est prof de maths, hein. Il écrit ça, voilà.
Et il fait sa ligne quotidienne sur la connerie. Quoi.
Voilà, il fait sa ligne. Et à un moment, il sent qu'il tombe amoureux de l'agrégé. Et il commence par dire... il commence par s'engueuler avec elle. Il commence par dire, faut être con pour être agrégé de maths. Et puis il se dit quand même, c'est minable parce que j'ai pas eu la grecque. Alors il barre agrégé, il dit, faut être con pour être certifié de maths. Et puis il se dit, non, je suis certifié. Donc il dit, bon, ben, faut être con pour être prof de maths.
Alors, au début, je n'avais pas compris hein, le « faut être con », parce qu'il ne l'écrit pas comme il le dit.
Oui,
hein.
Oui, j'ai écrit.
Donc, sa s'orthographie, F-O-A-I-T-R-K-H-O-N. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, là ? C'est après que j'ai compris. Ouais. J'ai beaucoup ri. Ceci dit, c'est un humour noir et corrosif qui court dans tout le bouquin. Il est con, mais il est attachant, oui.
Oui, oui fait, j'ai essayé. Oui. Voilà. Oui.
Alors, tu campes plusieurs personnages, je trouve, avec leur dimension humaine, avec leurs failles. Son ami Eric, même l'agrégé prof de maths avec qui au début il s'était dit mais il ne s'entend pas. Ils ont tous une épaisseur humaine, ils ont tous des caractères. Tu leur campes des livres qu'ils aiment, tu décris leurs goûts, la musique, les tableaux. Tu arrives à les faire vivre presque comme s'ils étaient à côté de nous.
Merci. Oui. Mais oui, alors il y a des personnages que j'aime beaucoup. Alors, ceux que j'aime beaucoup, j'ai tendance à leur donner une certaine épaisseur. Et il y a un personnage que... Alors, mon personnage préféré, il n'a qu'un chapitre, en fait. C'est un vieux russe qui vit à Auch et qui passe son temps... Alors, qui ne supporte plus rien. Et donc, c'est un russe juif homosexuel qui a décidé de vivre à Auch. Parce qu'il dit Auch, personne ne sait qui c'est, où ça se trouve, même le FSB ne saura pas. Enfin, donc, on me foutra la paix. Et donc, il passe son temps à boire de l'armagnac et à manger je ne sais plus quoi devant la cathédrale d'Auch. Et alors, en fait, c'est le mentor du chef des tueurs. Et donc le chef des tueurs, qui n'est pas un mathématicien, va le voir pour lui demander de lui expliquer cette histoire. Parce qu'en fait, le chef des tueurs, il sait qu'il poursuit quelqu'un, mais il ne sait pas pourquoi. Et à un moment, il veut savoir pourquoi, et donc il va voir ce Russe. Et alors, il y a ce Russe, pendant un chapitre, j'ai essayé de lui donner une épaisseur, et en fait, j'ai regretté ce gars-là de ne pas l'avoir utilisé beaucoup plus, parce qu'il me plaisait. Et après, j'aime beaucoup, effectivement, non pas le héros, parce que, bon, je le connais trop bien, le héros, et son copain, alors qui existe aussi, qui est quelqu'un que je ne vois plus, mais que je voyais à une époque. Et j'aime bien le copain, oui. J'aime bien le copain qui a une vision un peu décalée, déphasée de...
Celui de la licorne,
voilà.
Là.
Ah, celui de la licorne, oui, voilà.
Que tu appelles aussi un écolo mystique tendance Bourbon.
Voilà, c'est ça.
Et qui est guide, en fait.
Oui, c'est un guide, oui,
c'est ça. Prétexte à faire voyager
aussi.
D'ailleurs, c'est lui qui va retrouver quand il a besoin de se réfugier.
Voilà, c'est lui qui va essayer de... Enfin, pour s'en sortir, il va le voir. Ça n'a pas très bien marché.
Voilà, alors, tu parlais du Russe, mais du coup, j'ai presque envie de te faire lire un passage où il y a le poème de Maïakovski, qui est magnifique. Il nous fait lire Charles Cros, il nous fait lire Maïakovski.
Alors, comme une coupe de vin à la table d'un festin, je lève mon crâne rempli de poèmes. Souvent, je me dis, et si je mettais le point d'une balle à ma propre fin ? Aujourd'hui, à tout hasard, je donne mon concert d'adieu. Alors, mémoire, c'est le nom de la poésie. C'est pas mon concert d'adieu, mémoire. C'est le nom de la poésie, ça c'est une erreur du maquettiste. Ça se termine comme ça. Aujourd'hui, à tout hasard, je donne mon concert d'adieu.
Voilà. Tu lis de la poésie ? Tu es un lecteur de poésie aussi ?
Oui, mais les Français et les Français du 19e, c'est-à-dire Cros, Lautréamont, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Voilà, ça c'est mes... J'ai pas passé le stade après. Après, je ne comprends pas. Au-delà de ces gars-là, je veux dire, la poésie moderne, je ne comprends pas du tout. Une fois, j'avais un copain, j'ai plusieurs copains poètes, mais dont toi. Mais une fois, je suis tombé sur un copain de Lille qui fait partie des poètes avant-gardistes. Ah ben alors là, à un moment, il m'a passé un bouquin qui faisait 30 pages. Je lui dis, bon, il prend un de mes romans, il me dit, j'ai du mal à lire le roman. Bon, je lui file un bon bouquin. Et il me passe son recueil de poésie, 30 pages. Je me dis, bon, c'est bon, 30 pages, dans une demi-heure, j'aurai terminé. J'ai lu 5 lignes, je me suis dit, punaise, là, t'es vraiment con, quoi. En fait, t'es vraiment un prof de maths, parce que je ne comprenais pas de quoi ça parlait. Donc, j'ai essayé d'insister, je ne comprenais pas. Je passe au poème d'après, je ne comprenais pas. Bon, alors, heureusement que ma femme, qui est prof de lettres, je lui ai passé, elle m'a dit, non, je ne comprends pas. Voilà, donc je m'arrête à Rimbaud, et encore Rimbaud, pas tout Rimbaud. Prévert, et puis la poésie de Vian, ouais.
Puis plein de références musicales aussi. Moi, je voyage avec toi et puis après, je connais pas, donc je vais chercher. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, il y a des...
Il y a Zappa, il y a Chet Baker, enfin, c'est... Oui. Il y a du reggae...
Oui.
Italien.
Oui, reggae
enfin, des choses étonnantes,
oui,
quoi.
Oui, oui.
Mais tu aimes ça, en fait, hein ? Donner des références culturelles et tout. Dans Autopsie d'un bouquiniste aussi, il y avait plein de choses que j'avais découvertes par...
Oui, parce qu'alors, c'est... Ce qui est bien... Avec parfois certains groupes de musique pas trop connus, c'est que de temps en temps, ça permet de faire un pont avec une personne qui les connaît. Et alors, bizarrement, ça fait partie des trucs qui suscitent le plus de réactions. C'est-à-dire que d'habitude, je travaille avec une attachée de presse chez Wartberg, hein, l'éditeur. Et elle était en vacances, et donc c'était le remplaçant qui était un attaché de presse. Et le gars me dit, il avait un nom italien. Il me dit, mais je suis italien. Il me dit, mais Pittura Fresca, pour moi, c'est toutes mes années de jeunesse. Il me dit ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et un copain, il m'a dit, alors là, il me dit, tu connais Maurice Bénin ? Alors, Maurice Bénin, c'était un chanteur d'extrême gauche. C'est un gars qui doit vivre au Larzac. C'est-à-dire qu'il n'a jamais quitté le Larzac, lui. Il a commencé son truc et après, il y est toujours. Et ça fait partie vraiment des gars de la musique alternative. Et bon, il me dit, tu connais Bénin ? Donc, on a passé toute une soirée à parler de Bénin avec ce copain. Et voilà, c'est des trucs amusants comme ça. Et ça permet de boire quelque chose, quelques verres en parlant d'un sujet un peu original.
Il y a beaucoup d'autobiographies, en fait. Hein.
Il y a beaucoup d'autobiographies, oui. Il y a aussi beaucoup de trucs qui ne sont pas du tout autobiographiques. Hein. Je veux dire, c'est vrai que ça a l'air d'être autobiographique, mais il y a beaucoup de faux.
Le cinéma aussi, hein ?
Le cinéma, oui. Tu penses à quoi, là ?
Par exemple, le gang de tueurs, Smith 1, Smith 2, les tueurs
à
gages,
ah, oui,
les courses-poursuites.
Oui, ça, c'est Matrix, oui.
Il y avait plein de choses.
Oui, c'est vrai, les Smiths, c'était... alors, ce n'est pas un film que j'aime bien, Matrix, mais ce qui était bien dans Matrix, c'était cette histoire du tueur cloné et qui s'appelle Smith. Ils s'appellent donc tous Smith.
Je ne m'y attendais pas. Il y avait un Smith 1, un Smith 2, puis il y en a un troisième qui arrive, un quatrième. Ils sont démultipliés, mais je riais toute seule. Quoi.
Voilà, ça, c'est, oui. C'est leur nom de code. Quoi. Non, mais moi, ma culture de base, ce n'est pas la littérature classique. J'ai très peu lu de littérature classique. C'est ce qu'on appelait dans les années 70-80 la contre-culture. C'est-à-dire, la contre-culture, c'était la bande dessinée, c'était une musique originale, c'était la littérature de genre et avec la science-fiction qui était, le chantre de la contre-culture, c'était un gars qui s'appelait Lancelot. Et Lancelot, c'était son grand truc, c'était la science-fiction américaine. Et pour moi, les grands romans, c'est pas Balzac, c'est pas Stendhal, tout ça. Moi, j'ai très peu lu ces gars-là, ça me plaît pas. Enfin, je veux dire, Flaubert, j'aime pas. Je veux dire, c'est pas mon univers. Moi, mes grands, c'est Van Vogt, c'est Philippe K. Dick, etc. Donc, moi, je viens de là. Je viens de Philippe K. Dick, de Van Vogt et de Boris Vian qui a introduit ces gars-là en France. Et donc, ma base, c'est vraiment ça. Et comme c'est pas la culture polar. La culture polar, je me suis forcé à lire les auteurs de polar. C'est-à-dire que j'ai lu tout Chandler, ça m'a plu. J'ai essayé de lire d'Achille Hamet, j'ai pas pu. J'ai lu Chesterheim, ça m'a beaucoup plu. Voilà, mais il y a des gars que je peux pas lire. C'est pas mon truc naturel, le polar. Mon truc naturel, c'est la SF. Mais je ne sais pas écrire de SF. Et en même temps, je suis très content de ne pas savoir écrire de science-fiction parce que ça me permet, quand je prends un bouquin de SF, de ne pas... d'être vraiment un simple lecteur, voilà, de ne pas me dire, de ne pas étudier ça de manière technique.
Alors, ton tueur à gages me faisait rire parce qu'il va à Utopia. Le prof va acheter ses bouquins à la machine à lire et chez Mola. Merci pour le clin d'œil.
Ouais.
Les bouquinistes aussi.
Oui.
Tu dois hanter les bouquinistes, hein, parce que.
Oui. Bouquiniste, pour moi, c'est le métier idéal.
Ouais.
Alors que je peux pas trop pratiquer, mais bon, je me retiens pour ne pas démissionner, devenir bouquiniste. Mais j'ai toujours adoré ça. J'ai été l'ami d'un gars qui était extraordinaire, qui s'appelait Jacques Biseglia, qui est l'auteur d'un dictionnaire du roman policier, mais qui est très vieux. Donc parfois il y a les gens qui le sortent là, ce bouquin, il est épuisé. C'était un énorme pavé. Il avait pris tous les bouquins policiers donc, que l'on peut trouver sur le marché français et il avait donné leur cote. Mais c'est un bouquin qui doit dater des années 92, je pense. Donc la cote est donnée en français. En francs. Et depuis 92, évidemment, il y a des bouquins qui ont grimpé. Et donc ce gars-là, j'ai passé quasiment une année. Quand j'étais en thèse de mécanique, j'ai fait une thèse de mécanique, c'est-à-dire c'est des maths appliquées. En fait, j'étais quasiment tout le temps avec lui sur les quais de Seine. Il était en face de Notre-Dame de Paris, à côté de la capitainerie. Donc là où il y a les bateaux, enfin, la capitainerie du port de la Seine. Et donc avec lui, il m'a appris un peu plein de ficelles du métier de bouquiniste. Et moi, c'est un métier qui m'a toujours fasciné. Et j'adore ça. J'adore ça et... Bon, et j'ai même écrit un bouquin qui est un bouquin très court, mais qui est presque illisible, sur un inédit de Forton et de Boris Vian, parce que c'est trop technique. Voilà. C'est un bouquin, alors j'ai des copains bouquinistes qui l'ont lu, ils me disent « Ah, c'est fabuleux !» Mais bon, c'est fabuleux parce qu'ils sont bouquinistes. Mais je suis fasciné par les trucs de cote, les éditions, deuxième édition, édition originale, machin comme ça. Quoi. C'est des trucs, ça c'est des trucs qui m'intéressent énormément.
Est-ce que tu t'amuses quand tu écris? Parce que nous, lecteurs, on rit beaucoup, mais à l'écriture, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a une souffrance?
Non, il y a alors là, aucune souffrance. Non, moi, j'ai jamais eu le... Donc, quand j'étais avec Thierry, quand on a commencé, c'était un peu... J'étais le scénariste et il était le styliste. Et donc, comme on avait cette dichotomie, on avait tendance à se reposer l'un sur l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui était imaginatif, délire, scénario, c'était plutôt moi, même si lui avait apporté évidemment sa propre touche aux histoires. Et le style, je savais que je pouvais écrire comme un cochon, parce que derrière, c'était lui. Alors lui, il écrivait des passages, et puis après, il reprenait les miens. Donc c'était lui qui avait... qui avait le dernier mot sur le style, de toute manière, quoi qu'il arrive. Et c'était plus ou moins moi qui avait le dernier mot sur le scénario. Et donc, quand je me suis mis à écrire tout seul, il a fallu que j'apprenne à écrire. Et donc, j'ai eu toute une série de moments, de manuscrits, où j'ai appris à écrire. Et surtout à trouver le style que je voulais avoir. Donc j'ai beaucoup de bouquins qui n'ont pas le style que je voulais avoir. Et puis un jour, il y a eu un livre qui correspondait à ce que je voulais. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un styliste. Je ne cherche pas à être dans les grands stylistes de la littérature. Mais par contre, je voulais que mon style ressemble à quelque chose. Bon, maintenant, ce style-là, il est comme je le voulais. Et je reste toujours un scénariste. Et donc, je le mets au service de mon scénario. Et bon, une fois que j'ai eu ce style, c'était facile, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème de page blanche. Même moi, on me reproche de trop écrire. Moi, je fais partie des auteurs qui publient trop, qui écrivent trop, etc. J'ai toujours beaucoup de manuscrits dans mes tiroirs. Voilà.
Et tu aimes du coup les petits chapitres alternés,
oui.
Secs,
oui.
Incisifs, et oui. Composés comme un puzzle, petit à petit, l'histoire prend corps.
Oui. Oui,
ça, tu l'as dans la tête au départ ?
Ça, je l'ai maintenant. Ça fait plusieurs années. C'est quelque chose. C'est une manière de construire qui correspond à mon style. Alors ça, c'est une construction en fait. Je pense qu'elle me vient de Philippe K. Dick. C'est un auteur. En fait, je me suis rendu compte que j'écris comme les traducteurs. Enfin, qu'on dit. J'aimerais écrire comme les meilleures traductions de Philippe K. Dick. Voilà. Philippe K. Dick a été traduit par plusieurs traducteurs qui sont tous vraiment bons, moi, je trouve. Et de toute manière, parmi les traducteurs, il y avait des gars qui étaient des... Il y avait des pointures, quand même. Il y avait Doré Mieux, entre autres, qui était une pointure. Et K. Dick est un gars qui avance à coups de petits chapitres et plusieurs personnages. Et donc, il va mettre le projecteur sur un personnage, trois pages, paf! Un truc rapide, incisif, et il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis, paf, il va passer sur un autre, il faut que... Et même principe. Et tac, 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 et puis il y a une sorte de périodicité dans la réapparition des personnages. Et en même temps, cette périodicité, de temps en temps, il la casse aussi. Enfin, de telle manière que parfois on s'attarde sur un personnage, parfois il y en a un que l'on oublie, etc. Et donc, je crois que je me suis beaucoup inspiré de Philippe K. Dick. Voilà. Qui pour moi, plus je vieillis, de toute manière, plus c'est l'auteur. J'ai longtemps été sous domination Borisian, et puis je crois que je finis avec domination, enfin, en étant influencé par Philippe K. Dick. Ce qui fait que comme je n'écris pas de SF, c'est assez bizarre de dire que je suis influencé par Philippe K. Dick. Je suis un auteur de polar ou de fantastique qui écrit comme Philippe K. Dick, qui lui-même n'a écrit qu'un seul roman de fantastique et zéro polar. Ou Blade Runner, si vous voulez. Voilà.
Et du coup, il faut être attentif, en fait, hein, parce que le petit détail d'un personnage va ressurgir après. Par exemple, Eric avec sa licorne, au début, ça me faisait rire, mais en fait, c'est très important pour la fin.
Oui, alors ça, c'est ce que j'appelle... Alors, c'est ce qu'un copain... Alors, j'ai écrit, je discutais avec quelqu'un qui me disait, mais vous avez écrit avec plein de gens, ou vous écriviez avec d'autres personnes. Je dis, oui, j'ai commencé avec Thierry Dorel, mais après, je suis passé avec celle qui est devenue ma femme. Puis après, j'ai écrit avec plein de gars. Et alors, j'ai écrit un bouquin et deux scénarios de télé qui n'ont pas été tournés avec un gars qui s'appelle Pascal Medge. Et donc, à l'époque, on vivait sur Paris tous les deux et on habitait à 300 mètres l'un de l'autre. Et alors ça, c'était notre période Philippe Djian. On a beaucoup lu Djian. Et en fait, on se prêtait les bouquins de Djian et on en discutait au resto tous les deux. Et on allait beaucoup au cinéma. Et alors, au cinéma, on avait beaucoup discuté d'un film. Alors, je ne sais pas si on s'en souvient encore, ce genre de film, mais un truc qui s'appelle L'Arme Fatale. C'était une série avec Mel Gibson. Donc, il y avait 4 ou 5 films, je crois, 4 ou 5, je ne sais plus. Donc, L'Arme Fatale, deux super acteurs, Gibson et puis alors un acteur noir dont le nom m'échappe, qui est pourtant assez connu. Et à un moment, il y a une scène, dans le 3, je crois. Ils discutent tous les deux dans le garage. Et à un moment, il y a Gibson qui prend une clouteuse. Une clouteuse, et il la prend comme ça, et il y a l'autre qui lui dit « Hop, 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 attention, c'est une clouteuse, c'est vachement dangereux. » Il dit « Bah, qu'est-ce que tu veux dire ?»« Bah, t'appuies, et puis il appuie, et paf, il y a un clou qui jaillit, qui part comme ça. » Et puis voilà. Donc c'est un truc comique pour montrer que Gibson fait n'importe quoi, alors que l'autre est plus carré. Sauf que à la fin, le dénouement, il y a Gibson qui est tout seul face à un tueur qui est très très fort, et il se retrouve dans le garage du type, et il s'en sort parce qu'il prend la clouteuse et il tire un clou dans la tête du tueur. Et donc, on en parlait. Alors moi, je disais aux copains, « Oh, quand même, la clouteuse, c'est vachement bien. » Il me disait, « Mais non. » Il me dit, « C'est le cinéma américain. Ils sont cons, ces Américains. Ils te montrent une clouteuse. Alors, comme ils te la montrent, forcément, la clouteuse, tu vas la revoir. » Mais moi, je suis pour l'histoire de la clouteuse. Ce qui fait qu'effectivement, quand il y a un détail, en général, le détail, alors j'essaye de le minimiser, de faire en sorte qu'il y ait une plaisanterie, etc. Parce que ça passe pour juste pour le plaisir de faire une plaisanterie. Et en fait, c'est la résolution finale. Voilà. Alors, ça relève du procédé, mais bon, c'est des techniques aussi, je veux dire. Le roman policier, quand même, est très technique. Hein. Contrairement, comment dire, au fantastique, ou si le fantastique peut être parfois onirique ou d'horreur, où là, au contraire, la technique peut s'effacer. C'est-à-dire qu'en fantastique et en horreur, il faut puiser dans le grain de folie qui est dans l'auteur. Je veux dire, comme... Alors, c'est un autre auteur qui s'appelle Gilbert Galerne, qui est un gars qui a eu un prix du Quai des Orfèvres. Donc lui aussi, c'est un transfuge. C'est un gars qui est passé de l'horreur au polar. Il me disait quand même, en fantastique, j'ai remarqué, on a tous un pet. Il me dit, on a tous, de toute manière, un problème avec nos parents. Il y a quelque chose... les auteurs de fantastique ont quelque chose qui ne va pas dans leur enfance. Dès que tu les connais, dès que tu discutes, il me dit, chaque fois, je vois la liste, il me dit, il n'y en a pas un qui échappe à ça. Alors qu'en polar, ce sont des auteurs qui sont plus techniques et ce sont souvent des auteurs qui viennent du milieu politique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les gars de polar, ils viennent souvent d'une extrême gauche, parfois extrême droite. Je veux dire, ce sont des gars qui sont très politisés et qui sont venus au polar, voilà. Pour mettre, parce qu'à la fois, il y a une technique et en même temps, ça permet de faire passer leurs idées. Nous, en fantastique, on est des semi-dingues et on se soigne, en fait, avec le fantastique. À une époque, alors, bon, sur Internet, j'ai perdu beaucoup de temps à m'engueuler sur la liste 813. Alors, dans le polar, il y a l'association 813, en hommage à Arsène Lupin. Et sur cette liste. Donc, ils ont des listes, un blog, etc. Et à une époque, il y a quelques années, la liste, il y avait pas mal de monde, et pas mal de monde qui n'était pas du tout des mêmes horizons politiques. Et il y avait beaucoup d'angelots sur cette liste-là. Et attends, ta question, tu me disais, c'était...
La SF polar, quoi.
Ah oui, alors, et voilà, alors il y avait les. Donc, majoritairement, quand même, le roman noir, pour le transgenre. C'est-à-dire que j'ai toujours été pour le polar fantastique. Et moi, je disais, mais c'est vachement bien de prendre un livre et de ne pas savoir si le tueur, c'est un. Si le tueur, c'est le. Je sais pas, si c'est l'employé de la poste ou si c'est un vampire. Pour moi, ce serait l'idéal. Tu vois, tu prends le bouquin et tu sais pas. C'est un fantôme ou c'est un vrai tueur ? Voilà, en ce moment, il y a un truc que moi, je trouve sensationnel sur Arte, une série suédoise. Ça y est, enfin, ils ont basculé. C'est forcément, vu comme ils en sont au sixième épisode, on est dans le fantastique. Je pense qu'on va avoir droit à des créatures issues de... C'est une forêt qui tue. Et au départ, on vous fait croire qu'il y a un serial killer dans la forêt, donc un tueur d'enfants. Et en fait, le serial killer, petit à petit, on se rend compte que ce n'est pas un serial killer. C'est un type qui pourchasse quelque chose qui est dans la forêt. Et là, on est en train d'arriver vers des créatures, apparemment des vieilles créatures qui sont dans la forêt et qui ne veulent pas que la forêt soit détruite. Et donc, on va avoir des monstres quoi, qui vont apparaître. Hein. Il y en a un qui est apparu. Bon, pour moi, ce serait ça l'idéal. Ce serait ça l'idéal. Mais alors, bon, les éditeurs français, ils n'en veulent pas. Parce que alors là, déjà, il faudrait expliquer transgenre, ce que ça veut dire. Alors non, c'est du polar fantastique. Ah, mais ce n'est pas possible. Alors, l'argument qui nous ressort, c'est les libraires ne vont pas savoir où le ranger. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc ça, c'est très, très... Donc ça, vraiment, il vaut mieux ne pas trop y toucher.
J'avais demandé à François qu'il nous parle de ses derniers coups de cœur, polar. Et
on les prendra.
Il y a comme tu veux.
C'était cet ordre-là.
Il y a deux livres, en fait, qui sont arrivés hier. Et c'est vraiment des nouveautés. Et deux auteurs de polar bordelais. Donc... Tu les prends dans l'ordre que tu veux.
Oui, alors cet ordre-là, c'était exactement celui que je... alors, il y a trois auteurs français, un auteur américain. Il y en a un, c'est un thriller, donc c'est Philippe Laguerre. Alors en fait, Philippe Laguerre, c'est le premier roman de Philippe Laguerre. En fait, c'est son 20e, mais il en a écrit 19 autres sous le nom de Philippe Ward. Alors Philippe Ward, c'est un gars qui multifonction. Il est éditeur, c'est le co-créateur des éditions Rivière Blanche. Il est auteur d'horreur, de fantastique. Mais c'est du fantastique, il a commencé dans le fantastique de terroir, c'est-à-dire que c'est du fantastique basque, du fantastique ariégeois. C'est quelqu'un qui revisite les folklores de certaines régions françaises. Et donc il a fait deux bouquins fabuleux en début de carrière, un qui s'appelle Artae sur le dieu ours, qui est sûrement le premier dieu des Gaulois. Les Gaulois ou ceux qui étaient avant auraient eu comme première divinité l'ours, et donc qui s'appellerait Artae. Et donc il avait fait un bouquin qui se passait en Ariège sur ça. Et après il a fait un truc sur le Pays Basque et un affrontement. Alors ça c'est un bouquin assez sensationnel qui a changé de titre, qui s'appelait Irenzina, qui s'appelle maintenant Mascarade. Et c'est un affrontement entre les faucons et les pacifistes de l'ETA. Alors, un bouquin qu'il a écrit en prenant 1000 précautions, évidemment, pour ne pas se faire sauter sa baraque. Et donc, c'est un affrontement. Il suppose qu'un des faucons de l'ETA a réussi à donner vie aux dieux basques. Et en se servant des dieux basques, il tue tous les pacifistes, toutes les colombes, en fait, de l'ETA. Enfin, les gars qui veulent... et c'est vachement bien. C'est vachement bien parce qu'il y a un truc d'horreur. Et en même temps, c'est une manière de voir l'ETA et les... Alors l'ETA, la version dure, qui ne veut pas de compromis, et la version, au contraire, qui est prête à faire quelque chose avec un Pays basque semi-autonome, etc. Donc il avait fait ça, et donc il est assez connu, et il écrit aussi des polars, sous le nom de Ward. Alors lui, il s'est fait avoir, ça fait partie des gars qui... Son vrai nom, c'est Laguerre. Mais comme il était un fou de fantastique, quand on lui a demandé un pseudo, son grand livre à lui, c'est l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. Et donc, il a pris le nom de Ward, Philippe Ward. Et en fait, tout le monde parle de Philippe Ward. Et son éditeur lui a dit, tu débutes un thriller pour les libraires. Il ne faut pas que tu sois sous le nom de Ward. Parce qu'il y a le libraire de SF ou de fantastique qui va dire, Ward, il est pour moi. Alors que tu ne dois pas être en fantastique, tu dois être en polar. Donc, il a pris un pseudo, et son pseudo, il a pris son vrai nom. Alors, lui, c'est un Philippe Laguerre. C'est quelqu'un qui adore une ville que je déteste, qui est New York. Donc, c'est quelqu'un qui, dès qu'il a des vacances, il va à New York. Bon. Il adore New York, et il adore monter le plus haut possible sur des tours, sur des ponts, des machins comme ça. Alors, moi, il y a un truc contre les ponts et les... Je déteste ça. J'ai toujours détesté ça et encore plus depuis quelques temps, mais j'ai toujours détesté. J'ai toujours eu le vertige. De toute façon, il y a un vertige maladif. Alors lui, au contraire, il adore tout ça. Et alors, le prologue de ce bouquin est un prologue qui est un prologue d'enfer. Parce que, alors ça, moi, je trouve ça génial. Il nous raconte, par le détail, une scène que tout le monde connaît. Il nous raconte la montée sur scène de Marilyn Monroe le soir où elle est arrivée bourrée à je ne sais plus quel endroit à New York. Pour l'anniversaire de Kennedy, et elle est venue chanter Happy Birthday, Mr. President, donc avec sa fameuse robe qui a été cousue sur elle, où elle est un peu éméchée, etc. Et donc on assiste à ça, et on se dit, mais c'est pas possible, il nous fait le coup de, on l'a tous vu. Et puis juste après, elle sort, et tout d'un coup, elle nous apprend quelque chose. Peu de temps après, on voit la soirée après avec Kennedy. Parce qu'elle rencontre, elle passe la nuit avec Kennedy pour une dernière fois, et on la retrouve au petit matin après qu'elle ait donc passé la nuit avec Kennedy. Et là, on apprend que Kennedy lui a dit quelque chose, mais elle comprend que ce que lui a raconté Kennedy, c'est tellement énorme que dès que la CIA va le savoir, ils vont chercher à l'abattre. Et donc elle comprend à ce moment-là qu'elle est condamnée. Et donc elle se dit, qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma peau ? Voilà. Et puis, pouf, on se retrouve maintenant, à Wall Street, avec le mouvement Occupy Wall Street. Donc, aux États-Unis, ils ont eu leur nuit debout, mais c'était des nuits debout, mais à Wall Street. Donc ça, c'est il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Donc ils sont allés près de Wall Street et donc toute la gauche américaine a protesté et donc a protesté à Wall Street. Et là, on a l'héroïne qui est une ancienne GI, je crois, enfin, ou marine, j'ai jamais compris, enfin, une soldat américaine qui a fait l'Afghanistan et qui a démissionné et qui maintenant vit à New York. Et elle vit à New York et chez son grand-père étant mort, ses parents sont morts. Et dans la journée, elle va soutenir les gars d'Occupy Wall Street. Elle est un peu déprimée. Et en fouillant dans les affaires de son grand-père, elle se rend compte que le grand-père était un photographe. Et il y a toute une série de portraits de stars, et dont des portraits de Marilyn Monroe. Et lors d'une manif d'Occupy Wall Street, il y a un photographe d'avant-garde qui la prend en photo, qui la drague plus ou moins, et qui lui dit « J'aimerais que vous m'autorisiez à mettre vos photos dans ma prochaine expo. Je fais un truc sur Occupy Wall Street. » Elle accepte. Et à un moment, elle amène et elle en profite, donc au moment où elle va voir ce photographe, elle lui dit « Voilà, mon grand-père était aussi photographe, j'ai retrouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et le gars regarde et il dit « Mais ça, Marilyn Monroe, c'est dingue. C'est pas possible, normalement, que Marie... C'est vraiment bizarre. » Il dit « Il y a une photo de Marilyn Monroe à Cap Canaveral, c'est pas normal. Je vois pas quand est-ce qu'elle a été prise. » Et donc, il contacte les amis... Enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais c'est presque comme les amis de Chester Hamm, c'est les amis de Marilyn Monroe, etc. Donc il contacte le président des amis de Marilyn Monroe, qui vient regarder la photo, qui dit « Mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette photo de Marilyn Monroe ? On voit pas trop à quelle époque de la vie de Marilyn elle est allée à Cap Canaveral. » Voilà. Et ça débute comme ça, et après je peux plus... Bon. Alors ça, c'est un thriller. C'est-à-dire que c'est... Alors là je connais plus, là, c'est quoi les turns... Ah ouais, voilà. C'est-à-dire que là c'est, on tourne parce qu'on se dit bon, où on va là, où va-t-on quoi, bon, voilà. Donc où on va, eh ben, on va sur ce truc de Marilyn Monroe. Donc ça, c'est Philippe Laguerre. Alors moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas New York, mais qui aiment bien les trucs qui se passent à New York. C'est-à-dire que moi, j'aime bien qu'on me raconte une histoire qui se passe à New York ou un film à New York, à condition qu'on me demande pas d'y aller. Bon, par contre, lui, c'est un fou de New York. Donc, c'est un fou de New York. Alors, évidemment, tous les trucs, tous les tuyaux sur New York, voilà. Donc, il fait avec New York ce que nous, on a tendance à faire avec la Gironde. Ça, c'est la guerre. Voilà. Donc, thriller. Alors, La place de l'autre de Guy Reichenmann, présent aujourd'hui. Merci, Guy.
Ouais, de toute façon, on s'en va en concert cette après-midi.
Voilà, c'est ça. Alors, donc ça, c'est le tome 3 de la série des aventures d'Anselme Villock. Alors déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une série, alors au sens moderne du terme. C'est-à-dire que dans ma jeunesse, quand on regardait les Manix, on pouvait voir le 45e Manix, le 3e ou le 52e. C'était pas grave, c'était toujours la même secrétaire noire avec laquelle il ne couchait pas, d'accord ? Et il se passait rien, et Manix est un type qui avait toujours le même costume, et apparemment, il n'a jamais eu ni de vie sexuelle, ni d'évolution. Je veux dire, Manix est resté, Manix jusqu'au bout, il ne s'est rien passé, et c'était tranquille. Bon, alors, ce n'est pas du tout le cas d'Anselme Villock. C'est-à-dire que c'est un gars qui est originaire du nord-est de la France, Chambéry, et donc il a été muté sur le bassin d'Arcachon. Alors au départ, il était muté à Arcachon, et maintenant il est à Castéjar. Alors, donc on suit le pourquoi de il est venu ici. Ça, c'est le premier tome. Pourquoi il est arrivé ici et pourquoi il ne va pas bien. Et pour moi, c'est primordial. Enfin, je veux dire, pour moi, intellectuellement, c'était primordial de lire le tome 1. Parce que ça permettait de savoir, comment dire, de faire vraiment d'Anselme Villock un copain ou un ami. Savoir quel était son problème. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Oui, il a quelque chose dans le placard. » Et c'est bon de savoir ce qu'il a dans le placard. Bon, donc, en coup de cœur, moi, je mettrais aussi le tome 1. Maintenant, une idée, alors que je trouve fabuleuse, ça se passe, non pas maintenant... non pas au 19e siècle, mais dans les années 90. Et alors, pour plusieurs raisons, je pense. Alors, il y en a une qui est vraiment une raison qui, l'air de rien, est vachement intéressante, c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable. Parce que ces fichus téléphones portables, non seulement ils nous cassent les pieds pour plein de trucs, mais en plus, ça nous casse les pieds dans les bouquins policiers. Parce qu'il est bien évident qu'à cause de ces fameux téléphones portables qui, en plus, ont accès à Internet, à la limite, on pourrait faire un bouquin qui se passe, je veux dire, là, et le type pourrait, pendant 300 pages, ne pas sortir de là, aller d'Internet à Internet, filer des coups de fil, donc ne voir personne, se renseigner, tac, 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 et on pourrait avoir un truc qui ne bouge pas d'une pièce. Et là, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'effectivement, pour contacter quelqu'un, il vaut mieux aller, il faut aller le voir, hein, parce que c'est problématique. Et donc, il y a le fait d'aller quelque part, que j'aime beaucoup. Alors, dans le tome 3, il y a un côté Simenon, qui pour moi est un... alors, comme disait l'autre, le plus grand auteur français, même s'il est belge. Il y a ce côté Simenon de « on va voir les gens, on discute avec eux, on boit un coup avec eux, on fume une cigarette, on mange, on discute, on échange, et puis paf, petit à petit, il y a quelque chose qui se précise dans la psychologie d'un tel ou une telle. Bon. » Alors, le fameux teasing ou teaser, c'est Anselm Villoc qui est à Casteja maintenant. Donc, le Casteja, dans les années 90, c'était possible. On y est. Il est inspecteur et non pas lieutenant, capitaine ou commandant comme maintenant dans les films. C'est un vrai inspecteur, puisque le titre d'inspecteur existait encore. Et il est à Casteja, mais il habite au Canon. Et donc, il y a ce va-et-vient. Et au début, en fait... Ça commence par une non-enquête, c'est-à-dire qu'il va se balader sur la plage, du côté des blocos du Cap Ferret, et il voit une silhouette de femme perdue dans ses pensées. Et au début, il ne prête pas attention, il se balade, et quand il revient, elle est toujours là, enfin, elle est dans un état assez bizarre. Et donc, il va lui parler, et elle murmure une phrase, elle cherche un enfant, son enfant, mais elle sait où il est. Voilà, en gros, c'est pas ça la phrase exacte, mais on va dire que ça tourne autour de ça. Et donc, de toute manière, elle est dans un état qui nécessite une hospitalisation. Donc, il la fait hospitaliser. Et la faisant hospitaliser, il va proposer à son supérieur de mener une enquête pour savoir qui est cette disparue. Parce qu'enfin, on ne sait pas trop qui c'est. Alors, petit à petit, ils arrivent assez vite à savoir qui c'est. Le problème, c'est que c'est un toubib qui lui dit le problème, il y a un toubib qui lui dit je veux bien qu'elle cherche son gamin sauf qu'elle est vierge, donc ça c'est quand même assez éliminatoire. C'est quelqu'un qui cherche son enfant, mais c'est pas possible que ce soit son enfant, elle est vierge, donc il y a quelque chose qui va pas. Et alors au départ, l'enquête d'Anselm Villoc, ça consiste à trouver en fait, quel est le truc qui justifie auprès de son supérieur le fait qu'il va continuer à enquêter sur cette femme? Parce que cette femme, lui, il a très envie de savoir qui c'est. Mais bon, c'est un flic quand même. Je veux dire, le gouvernement français ne paye pas les flics pour essayer de faire des enquêtes sur des personnages un peu bizarres. Donc, il doit y faire toute une série de rapports pour essayer de justifier le fait qu'il faut intervenir. Et puis, bon, à un moment, petit à petit, on se rend compte que... Et alors là, c'est là que ça... C'est là qu'on est dans le roman noir et non pas le thriller. Alors, roman noir est toujours, je dis ça parce que roman noir en France, c'est toujours mieux considéré que le mot thriller. C'est du roman noir parce que là, on tombe sur la fameuse construction du mur de l'Atlantique. Voilà. Donc, en fait, le lien entre cette femme qui a été retrouvée non loin des blocos du Cap Ferret, c'est parce qu'il y a un lien avec la construction de ces fameux blocos, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec toute l'organisation qui a été mise en place par les Allemands, donc avec des gars de la collaboration, etc., pour arriver à savoir en fait ce qui est réellement caché. Donc là, il y a quelque chose qui ressort de la grande histoire. Dans le tome 2, on avait déjà eu affaire donc avec des enquêtes d'Anselm, avec un gros truc qui est les camps d'extermination. Donc là, à chaque fois, on a un polar qui est ancré sur le bassin d'Arcachon et sur Bordeaux, et qui traite... Donc, à deux reprises, qui a traité de trucs de la grande histoire. La première fois, c'était...
Il y a un peu d'humour, quand même. Il n'y a pas que des camps de concentration.
Dans le deuxième, ouais. Oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Oui, mais je n'ai pas fini mon développement. Non. Alors, moi, maintenant, pourquoi j'aime ces bouquins-là? Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le gars. le Anselme Villock, parce que c'est du... Alors, c'est du polar intelligent. Voilà. C'est-à-dire que... Bon, je ne viens pas du polar, et j'avoue, parfois, il m'arrive de dire du mal du polar. Il y a des polars, je veux dire, ça fait un peu con, quoi. C'est con. Tandis que là, on est vraiment avec un détective qui est cultivé, qui est sensible, qui est intelligent, et donc on est avec lui en permanence. Et ce gars-là nous distille une manière de voir le monde, une vision, une culture, qui fait que, effectivement, on fait l'enquête avec lui. Mais contrairement à Maigret, qui est un... Alors j'aime beaucoup Maigret, mais Maigret est un gars sinistre. Maigret, il lit pas, il a rien à dire, Maigret. Je veux dire, c'est un mec hyper intelligent, qui a une faculté de déduction extraordinaire et d'empathie avec les gens. Mais celui-là, comment dire, il a une véritable personnalité. C'est un esthète. Il a l'intelligence d'un Arsène Lupin, Anselme Villock. Voilà. Et donc on a vraiment quelqu'un d'attachant, avec après des scènes savoureuses. Je veux dire, parce que quand il se déplace, et là on retrouve les trucs de Maigret, mettons, il va dans le PMU d'Andernos, la discussion avec les types qui sont dans le PMU d'Andernos, bon. Voilà, même si vous connaissez pas le PMU d'Andernos, si vous avez déjà vu un PMU, je veux dire, cette odeur, on sent l'odeur du tabac, je veux dire, du Ricard, voilà, les trucs qui fusent, les discussions, et il y a toute cette ambiance. Donc voilà. Donc, alors, on peut le lire indépendamment, c'est quand même une lecture indépendante. Hein. On peut lire le 3 sans avoir lu le 1, alors, et sans avoir lu le 2. Hein, on peut lire le 2, mais moi je conseillerais 1 et 3 ou 1, 2, 3. Parce qu'il y a, je veux dire, voilà, c'est pas Manix, Anselme Villock, il change de nana, enfin, comment dire, il côtoie des femmes, il en reviennent d'autres, en réapparaissent, en disparaissent, il y a des gamines avec qui il sympathise, etc. Je veux dire, il y a des personnages, il côtoie pas les mêmes personnes, et les gens qui sont avec lui aussi ont une vie sentimentale qui avance, etc. Voilà. Donc c'est vraiment dans le cadre des séries modernes, avec la vie privée du héros qui se développe. Voilà. Alors, oui, je disais, puisque là, il y a beaucoup d'alcool dans mon bouquin. Alors, je disais, si on devait déguster, alors, le bouquin de la guerre, ce serait avec un pack de bière américaine, des Budweiser, ça s'appelle America maintenant, la bière. Donc ça, ce serait en buvant de la bière. Là, moi, un bon spritz vénitien. Avec du prosecco, et voilà, ça c'est à déguster en buvant des spritz, apérol et prosecco. Alors là, ça c'est un américain, alors en fait ça c'est une novella américaine, alors là c'est Jack Daniels sans glaçon, pur. Alors ça c'est un film en fait, ça c'est un film, Steamboat. Alors Steamboat c'est un B-25, c'est le nom d'un B-25, c'est un film, c'est dès que vous le prenez, chaque acteur qui arrive, vous voyez quelqu'un. Voilà. Donc vous voyez le héros, paf, paf, mais de ces films que l'on aime voir, c'est-à-dire des séries B. Mettons le pilote du B-25. Alors, l'histoire, c'est une jeune japonaise. Alors là, j'avoue que je ne vois pas qui est l'actrice, mais bon. Une jeune japonaise qui arrive et qui vient voir le shérif qui est le héros de la série de Craig Johnson. Alors lui, bon, c'est un gars, je le verrais bien jouer. Alors avant, c'était un rôle pour John Wayne. Maintenant, je ne sais pas, Harrison Ford, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est Stallone. Le Stallone de maintenant, hein, avec vraiment le vieux. Bon, et donc une japonaise vient voir ce Stallone-là, qui s'appelle pas Stallone, mais Longmire, je ne sais pas. Oui. Voilà, en français. Et qui lui dit, qui va le voir, il lui dit, vous ne vous souvenez pas de moi? Et lui dit, non, je ne vous connais pas. Elle me dit, c'est bizarre. Enfin, elle dit, et où est... Il n'y a pas aussi le... Alors, j'ai oublié le nom. Un type encore plus vieux, qui est l'ancien shérif. Il dit, mais si, justement, l'ancien shérif, qu'il a battu aux dernières élections, il est dans une maison de retraite, et le nouveau shérif va jouer aux échecs avec l'ancien shérif. Il dit, justement, c'est mon jour de visite, on va aller le voir. Et pareil, donc, alors, l'ancien shérif, c'est Eastwood maintenant. Eastwood a 80 ans, ça, c'est clair. Hein. Bon, pour moi, s'il y en a un, c'est Stallone, et l'autre, c'est Eastwood. Et la japonaise, pareil, lui dit, vous ne vous souvenez pas de moi? Et le type lui dit, ah non, vraiment pas. Et elle dit, Steamboat. Et puis, crac, retour en arrière, on arrive 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, on se retrouve, donc tout le monde est plus jeune de 20 ans, et le shérif a été appelé. Il y a une tornade qui arrive sur le patelin des États-Unis où ça se passe. Et il y a une tornade qui arrive et il y a eu un accident de voiture. Tout le monde est mort, sauf une gamine qui est brûlée gravement, une petite Asiatique qui est brûlée. Donc on comprend très vite que c'est là qu'on est en train de voir l'Asiatique plus âgée. Donc elle va s'en sortir, ça on le sait dès le départ. Et il faut l'évacuer vers le plus grand hôpital de la région, mais qui est très loin. Les hélicoptères ne peuvent pas décoller à cause de la tempête qui arrive. Un hélicoptère ne passera pas. Donc, ils disent, il n'y a pas d'avion, il faudrait un gros courrier, un truc vraiment costaud. Et il n'y en a pas. Et à un moment, Longmire dit, y a ça. Et il montre un B-25 qui s'appelle Steamboat. Il dit, ouais, mais il n'y a personne qui sait conduire un B-25. C'est fini, les B-25. B-25, c'était les bombardiers américains. Ce sont ceux qui ont bombardé Tokyo. Voilà. Eh bien, le gars, il dit, ben si. L'ancien shérif, il a fait partie de l'équipe des B-25, des pilotes qui ont bombardé Tokyo. Donc, ils vont le chercher. Le type dit, ben, d'accord, repiloter un B-25, moi, ça me va. Donc, alors, il y a tout le truc, il vérifie si le... Alors, il y a le circuit hydraulique qui est pété. Donc, il perd son carburant, il perd de l'eau, bon, il y a truc, et puis et voilà. Et en fait, le bouquin, c'est comment ils vont y réussir. Alors, il y a une jeune infirmière qui, en même temps, a des notions de copilotage, etc. Et donc, ils partent à trois, plus un toubib savoureux aussi, etc. Plus la gamine, plus la grand-mère de la gamine. Voilà. Et ils partent dans cet avion et ils vont essayer de devancer la tempête. Voilà. Et donc, en fait, tout le bouquin, c'est comment ils vont essayer de devancer la tempête. C'est vraiment. Je vous dis. Un film du dimanche soir, une série B avec Eastwood dans le rôle du pilote, Stallone dans le rôle du shérif, d'autres types, je sais pas, un bon acteur black pour faire le toubib, etc. Et ça fait donc là on est vraiment dans les trucs américains. Là c'est le pur américain. Efficace, oui, efficace.
J'avais juste sorti le dernier pour info parce qu'il vient juste d'arriver. Le nouveau Langmaier s'intitule « À vol d'oiseau ». Je l'ai juste commencé, ça démarre fort. Mais le coup de cœur de François, oui, c'est Steamboat.
Voilà, et alors le dernier, c'est un auteur de polar, alors qui est connu dans le polar sous le nom de Dounouvets, Sergueï Dounouvets. Sergueï Dounouvets, c'est un gars qui a eu la particularité de publier son premier roman au Dilettante. Un polar qui s'appelle Moviola. Le Dilettante, c'est l'éditeur de Gavalda, c'est l'éditeur de Ravalec, c'est un éditeur de littérature générale, c'est le rééditeur de Forton, rééditeur de Raymond Guérin, etc. Enfin, pour, dans les auteurs bordelais. C'est un gars qui a réédité beaucoup de bordelais. Éditeur très, très parisien, avec tout ce que ça comporte de qualité et de défaut. Et donc, Dounouvets, pendant une vingtaine d'années, a fait une carrière d'auteur de polar. Et à un moment, il a été titillé par, y compris des polars, donc chez le Dilettante. Et il a eu envie d'écrire trois romans de littérature générale. Et alors, il a fait, alors plus ou moins le contraire de la guerre. Enfin non, son vrai nom était Dounouvets. Il est allé chercher le nom de sa mère, qui est chef de ville. Et sous le nom de chef de ville, il a fait une trilogie de littérature générale. Alors, cette trilogie, le tome 1, c'est sur... Donc, chef de ville, c'est une sorte d'alter ego de l'auteur. Un alter ego qui serait à la fois photographe, faisant des ateliers d'écriture, ayant écrit un ou deux polars, etc. Et le premier, c'est un truc sur les ateliers d'écriture, alors qui est vraiment un bouquin sensationnel. Un bouquin qui explique le quotidien des auteurs qui font des ateliers d'écriture. Et alors, c'est ce qui est vachement bien. Alors, je vais vous dire, ça, c'est le vieux con de prof de maths qui réapparaît. Pour avoir fait des ateliers d'écriture, moi aussi, je partage avec chef de ville le fait que je déteste les ateliers d'écriture et que pour moi, ça ne sert à rien. Et donc, chef de ville, lui, alors moi, je le pense, je le dis avec certains amis, mais c'est tout. Et je n'écrirai rien sur ça. Par contre, chef de ville a eu le courage d'écrire tout un bouquin pour montrer les carnages des ateliers d'écriture. Alors, dans le tome 1, l'atelier, il y a des machins... c'est fabuleux. Il a, à un moment, l'éducation nationale adore les ateliers d'écriture. Donc, il y a plein de trucs. Il y a 15 types qui n'ont jamais écrit une ligne de leur vie. qui supervise tout ça, qui balance du fric. Et puis, ils mettent des trucs en conjonction. Et alors, chef de ville, qui est spécialiste de la caméra, il est à coquiner avec un conteur africain. Et alors, il y a un type qui arrive superbe, habillé comme un conteur africain de l'Afrique noire. Et puis, à la pause, ils discutent. Et le type explique que le conteur africain, il n'a jamais foutu les pieds en Afrique. C'est un mec qui ne savait pas comment faire pour gagner sa croûte. Et puis, un jour, il s'est dit qu'il connaissait deux vagues histoires sur l'Afrique, style conte et légende de l'Afrique. Et donc, il s'est fabriqué tout un truc de conteur africain. Et maintenant, il joue le grand conteur africain. Bon, il y a plein de trucs comme ça. C'est à mourir de rire, l'atelier d'écriture. Bon, ça, c'était son premier, l'atelier d'écriture. Comme par hasard, ça n'a pas trop pris. Enfin, Télérama n'a pas voulu le critiquer. Le Figaro a adoré, parce que ça tapait sur l'éducation nationale. Donc le Figaro a fait 3 articles, je crois. Télérama et Libération ont refusé de faire des articles sur son premier bouquin. Bon. Et évidemment, et quand il y a des copains profs, je leur dis, t'as lu l'atelier d'écriture de chef de ville ? Ah non, j'aime pas ça. Bon, ils font des stages pour faire des ateliers d'écriture, mes chers collègues. Donc évidemment, ils ne vont pas lire ça. Oui. Bon, ça, c'était le premier. Le deuxième, il a écrit une autobiographie romancée, une autofiction qui s'appelle « Je me voyais déjà ». Et alors, le troisième, alors c'est une trilogie comme Ansel Villock, et c'est une trilogie, et le troisième parle de la photo comme le bouquin de la guerre. C'est-à-dire que là, chef de ville est un photographe, mais qui, suite à des traitements antidépressifs, a perdu la mémoire récente. C'est-à-dire qu'il sait qui il est, il sait qu'il est considéré comme un grand photographe, il n'a pas la moindre idée de comment on fait une photo, par contre. Donc les gens lui parlent de son œuvre en lui disant « Vous avez une œuvre remarquable, mais pourquoi, monsieur chef de ville, ne faites-vous plus rien depuis 10 ans ?» Alors lui, il leur raconte des trucs pour maquiller le problème. En fait, lui, il sait qu'il est sous cachet depuis... Les neuroleptiques l'ont perturbé. Et donc, il n'a plus la moindre notion de ce que c'est que de faire une expo photo. Il n'en a pas du tout la force. Donc, il est un peu en déshérence. Et à un moment, quand même, il manque d'argent. Et donc, il y a un projet de la région. Alors là, il tape un peu sur les gars qui donnent l'argent, les conseils régionaux. Et il y a le conseil régional du Languedoc-Roussillon qui lui propose beaucoup d'argent pour faire une expo photo sur Nicéphore Niépce, c'est l'inventeur de la photo. Et il a besoin de l'argent, donc il dit oui, je prends. Sauf que ce ne sera pas une expo photo, sous-entendu parce qu'il ne sait plus faire de photos. Donc il a une vieille qui veut dire, alors il dit, je vais vous faire un truc en Super 8. Un truc en Super 8, vous verrez, ça va être bien. Et il n'a aucune envie de faire un truc sur Niépce parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Et donc, il décide donc de faire un truc à base de films Super 8. Et il se trouve qu'en explorant un vieux quartier de Montpellier, je termine là, en explorant un vieux quartier de Montpellier, non, j'ai trop long, en explorant un vieux quartier de Montpellier, il tombe dans un ancien bar américain de Montpellier. Donc les bars américains, c'était entre le bar et le bordel, hein, on peut dire. Il tombe sur un truc qui a brûlé, que la mafia a fait brûler parce que ça, il y a un truc qui n'allait pas, qui les gênait. Le type ne devait pas payer ce qu'il fallait. Et donc, il y a une caisse de vieilles photos, qui ont l'air de remonter à l'entre-deux-guerres. Et il fouille dans cette boîte de nuit suite à... Bon, il l'explique très bien, là, je l'explique très mal, mais lui, il explique très bien comment il se retrouve dans cette boîte de nuit calcinée. Et ces photos, il se dit, mais finalement, ces photos... Il n'y a plus d'auteurs. Elles sont là depuis je ne sais pas combien de temps. Elles ont été abandonnées. Il n'y a plus d'auteurs, donc elles sont de moi. D'accord ? Donc, il s'approprie, il se dit, j'ai été un grand photographe. Je ne sais plus faire de photos. Je ne sais plus ce que c'est. Mais je vois bien, je repère quand les photos sont bonnes. Ces photos sont vachement bonnes. Donc, elles sont de moi. Et puis, de toute manière, il n'y a personne qui va me dire le contraire. Parce que visiblement, elles sont tellement vieilles que le type qui les a prises a dû mourir. Alors, il fait quand même une enquête pour être sûr de ça. Voilà. Et puis, en même temps, le hasard de la vie fait que donc, le gars a 50 balais, il y a une petite... petite nana, oui, de 25 ans, qui lui tombe tout rôti dans les bras. Et donc, chef de ville, ça lui donne un peu de tonus. Et puis, en fait, il va tomber sur un truc qui a pareil. Il va... Alors, pareil, comme Anselme Willock, on va retomber sur quelque chose qui a trait à la grande histoire.
Merci à tous. Merci à François.